Bienvenue sur Radio Chad. Je sais pas si on m'entend, je sais pas si on entend la musique, je sais pas trop comment ça se passe, mais en tout cas, bienvenue sur Radio Chad. On est le mercredi 3 avril 2024 et ce soir c'est une émission totalement à l'arrache parce que voilà, ça arrive rarement. Voilà, et ce soir c'en est une. Salut Cryptomancer, ça va?
Salut Chad, bah ça va très bien. Et toi, comment ça va?
Bah ça va bien. Est-ce que tu m'entends bien? Est-ce que le son est correct ou pas?
Ouais, le son est correct.
Ok. Parce que je teste des choses. Je teste un vieux matos que j'utilisais il y a et genre plus d'un an, que j'utilisais il y a genre un an et demi, deux ans, que j'ai récupéré. Ah bah c'est cool. C'est vraiment cool. Et bon, bah très bien. Et en fait, ouais, je redécouvre un peu des nouvelles façons de connecter mes affaires. Je suis trop content. Bref, ouais, donc c'est ça ce soir. En fait, j'avais rien de prévu. Je me suis aperçu un petit peu tard dans la journée. Et donc, j'ai commencé à envoyer des messages, à essayer de réfléchir à des sujets, tout ça. Et à un moment donné, je suis tombé sur un truc que t'as retweet, c'est un post du collectif Sortie de Banque. Et qui parlait de Monero, qui disait si on aide à utiliser moins de 50 000 personnes, si on aide moins de 50 000 personnes à utiliser Monero, le système s'écroule, un truc dans le genre. Alors je trouve ça. Alors ouais. Du coup, j'ai pas bien compris. C'est quoi l'interview d'André? Est-ce que t'as fait partie de ce truc-là?
Alors pour la petite histoire, donc collectif Sortie de Banque, c'est Pierre qui l'anime et en fait il fait de la formation sur Bitcoin, sur Monero. Il va voir les commerçants, il va voir les collectifs citoyens, il va voir les gens qui s'intéressent un petit peu aux problèmes économiques et qui cherchent des solutions concrètes. Alors il leur apprend plein de trucs, il leur apprend Lightning, Bitcoin, Monero, tous ces outils qui peuvent être. Ah par contre t'as un écho.
Ah merde, je savais pas.
Ouais, donc il apprend donc tous ces outils. Enfin, il apprend aux gens tous ces outils. Et puis, il apprend surtout, il y a pas longtemps, il a fait une vidéo chez des agriculteurs avec des vaches et tout. Enfin, un éleveur de bovins. Et il paye ses légumes, sa viande en Bitcoin via Lightning. Et moi, je relais ses tweets. C'est quelqu'un qui est très engagé en politique, mais pas en politique politicienne, la petite politique de politique et de boutique, vraiment la politique au sens noble du terme. Il va au contact des gens, il va au contact des citoyens, il fait des choses. Et puis moi, je l'aide un petit peu dans ses démarches. On travaille un petit peu sur. Enfin, moi, je passe un peu sur mon temps libre avec lui.
Parce que je l'ai déjà invité deux fois et
Ouais.
je me souviens qu'à alors la première fois je sais plus de quoi on a discuté mais la deuxième fois il me semble qu'on avait discuté c'est ça de l'acceptation par les commerces des solutions de paiement en crypto et tout ça et j'aime beaucoup le travail qu'ils font ils ont un aussi, ils ont un channel Telegram aussi où ils parlent de ça s'appelle Sortie ELEC et en gros ils t'expliquent comment devenir autonome énergétiquement, genre quelle marque de panneaux solaires tu peux acheter, ce genre de trucs-là et tout. Donc je trouve ça vraiment cool. C'est vraiment, en fait, c'est vraiment le genre d'initiative avec lesquelles je suis genre 100% d'accord. C'est vraiment les libertariens next gen, tu vois. Genre c'est pas les survivalistes old school qui connaissent rien aux cryptos et tu vois c'est plus les survivalistes nouvelle génération. Ça me fait
C'est
délirer.
exactement
J'aime
ce
trop ça.
que je reproche beaucoup au milieu libertarien, c'est d'être assez, enfin, entre guillemets, assez boomer, tu vois, dans les spectatifs, dans les grandes théories, machin. Bon, alors qu'il y a de très bonnes théories, hein, moi j'en connais, j'en fréquente, et il y a vraiment des mecs très intelligents qui ont vraiment une très très bonne culture, genre Stéphane que tu connais certainement. Mais bon, après, le problème que je leur fais, enfin, le reproche que je leur fais, c'est souvent, voilà, on leur propose une solution très concrète. Voilà, c'est tout de suite. C'est pas, y a pas des tonnes de papier à noircir. C'est tout de suite et ça marche. Ils sont assez récalcitrants à utiliser, enfin, passer vraiment à la partie technique.
Ouais, et puis ouais, mais le truc c'est que avec les, il y a un truc, je me demande vraiment comment ils font en fait collectif sortie de banque pour aller, bon, je dirais orange pilé, mais genre si tu veux, voilà, faire la promo de l'utilisation des cryptos auprès des commerces. Genre, je me demande c'est quoi les arguments parce que déjà quand tu vas vers un groupe de, bah, quand tu vas dans un commerce et tu leur dis, en fait, qu'est-ce que tu leur dis? Parce que si tu as
En
envie de
fait,
leur faire utiliser les cryptos, déjà pourquoi? Tu sais, genre, comment tu
c'est très
justifies ta
simple.
présence? Ouais.
C'est très très simple. Il faut d'abord, enfin déjà les commerçants, il y en a beaucoup qui font un peu de black. Donc là, il faut leur expliquer clairement avec le CBDC, le black, ça sera fini. C'est fini, un petit cacheton pas déclaré. Parce qu'avec le CBDC, chaque micro-centime sera tracé. Voilà, déjà, il faut les prendre un petit peu par les sentiments. Il faut leur faire un petit peu peur, alors même si c'est jamais agréable à écouter. Ça, c'est la première approche. Le deuxième approche, c'est de dire, voilà, par le circuit bancaire, en fait, à chaque fois qu'un client te fait transaction, la banque touche une commission. Et la banque, normalement, elle ne devrait pas. Ou ton appareil bancaire ou ton service bancaire touche une petite commission. Alors oui, c'est des petites sommes, mais à la fin du mois, à la fin de l'année, ça fait quand même une grosse somme. Et donc là, comment il approche les commerçants, il leur dit, c'est très simple, on peut vous proposer une solution, c'est direct, c'est instantané, vous n'avez pas besoin d'un système bancaire, vous ne dépendez pas d'un intermédiaire, et c'est 100% pour vous. C'est aussi un aspect, enfin,
Ouais,
même si par exemple
mais
le
genre,
commerce.
genre le mec, attends, juste avant que je te pose la question, comment ça se passe au niveau du son là? Parce qu'il y a encore quelqu'un qui a mis, il y a Paul qui a mis en message que on entendait de l'écho. Est-ce qu'on entend toujours de l'écho?
Pour l'instant, on
Pour
n'entend pas
l'instant, on
d'écho.
n'entend pas d'écho. Ah, ok,
Ah,
d'accord.
attends, je n'importe quoi, si, on entend l'écho.
En fait, c'est quoi l'écho? C'est que tu t'entends toi?
Alors, c'est-à-dire que
Alors,
je.
c'est-à-dire que je.
Donc, attends, je fais un petit
Attends, je
test
fais un
1, 2,
petit
2.
test 1, 2, 2.
Oui, donc en fait, je
Donc, en fait, je
parle et
parle
puis je
et
m'entends
puis je
moi
m'entends
avec une
moi
seconde de
avec une seconde
décalage.
de décalage. Ok. Si je fais ça.
Alors, on va en faire un petit test 1, 2, 1, 2. Alors là, c'est bon, là, il n'y a plus d'écho.
Ouais, il n'y a plus d'écho parce que j'ai enlevé mon micro, du coup, ça ne fonctionne plus. Ok. Je sais pas trop. Alors, attends. Et si je fais ça, est-ce que c'est mieux? Je sais pas.
Alors,
Oh, dis un
on va
truc.
faire un petit test. Ah non, oui, là,
Ah
là,
non,
carrément.
oui, non,
Là,
là, carrément.
il y a un
Oh
écho
là
de ouf.
là. Ok, d'accord. Bon. Alors, je sais pas trop comment gérer ça. J'ai tout mis au minimum. Et là, est-ce que.
Alors, un petit test 1, 2, 1, 2. Pour l'instant, il n'y a pas d'écho. Pour l'instant, ça passe. J'insiste bien sur pour l'instant. Mais alors, du coup, je ne sais pas si tu parles, mais là, on ne t'entend plus.
Ah merde. Ah, donc en fait. Bon, et là, on m'entend, mais on m'entend pas beaucoup, j'imagine,
Là, on t'entend un petit peu moins, mais pour le coup, il y a moins d'écho. Enfin, il y a plus
Ok.
d'écho.
Ah, ok, et là, on m'entend mieux.
On t'entend bien. Est-ce qu'il y a un écho? Non, il n'y a pas d'écho. Donc là, je pense que là, on est correct.
Ok. Bon. Bon,
On y
super,
arrive,
bah
on va y
merci.
arriver.
Ok, parfait. Bon, bah, super. Bonjour à tous ceux qui sont venus. Ouais, alors c'est ça. Les trucs que je me demandais, c'est parce que ouais, t'arrives. C'est sûr que les arguments, ils sont cool, tu vois. T'arrives avec cette solution-là. Tu dis, vous pouvez avoir des, vous pouvez accepter des paiements qui sont immédiats, qui sont sans frais ou quasiment pas de frais. Que c'est tout est pour vous, pas de taxes, etc. Bla bla bla. Nouveau cash face au CBDC. C'est super séduisant. Mais genre, t'es un commerce. Si t'es en mode pas d'embrouille ou alors tu fais des même si tu fais des trucs un peu à côté genre du noir et tout comme beaucoup de commerces bah t'as un mec qui arrive vers toi t'as rien demandé qui te dit ça genre je veux ton bien vas-y adopte ces solutions tu te dis genre il y a un truc d'essayer de m'arnaquer quelque part il y a forcément
Alors,
quelque
je
chose.
connais pas, je sais pas exactement comment il les approche, mais à mon avis, je pense qu'il convainc des gens qui sont déjà convaincus. C'est-à-dire que voilà, typiquement, t'as quelqu'un qui est pas du tout là-dedans et qui veut pas faire la démarche. Voilà, je pense que lui, pour l'instant, on va pas lui apporter une solution à un problème qu'il a pas. Il s'adresse un petit peu, je pense, enfin, je sais pas trop comment il procède, mais je pense qu'il s'adresse à un public qui s'intéresse à ces solutions. Et qui veut voilà qui veut pas qui veut s'y prendre un petit peu à l'avance et qui veut pas être pris dans le bec enfin le bec dans l'eau le jour où justement il y aura l'arrivée des CBDC.
Ouais, je vois. Ouais, c'est vraiment pas con.
Il prêche des convaincus en fait.
Ouais. En gros, j'imagine que l'approche, c'est ça, c'est de trouver des gens qui sont déjà un petit peu dans les cryptos et tout. D'ailleurs, c'est marrant, tu le vois quand même que les cryptos sont en train de s'immiscer de plus en plus dans la vie des gens. Ne serait-ce que pour le côté trading, parce que des fois, quand je prends le train ou quand je vais dans un café pour travailler ou quoi, je vois toujours maintenant des gens. Il y a au moins une autre personne qui est en train de checker les cours de crypto, qui est en train de travailler sur un truc crypto. Il y a toujours au moins un. Et ça, c'était
C'est une
pas
bonne
le
chose.
cas il y a quelques années. Ouais.
C'est une très bonne chose. Ça veut dire que bah, justement, là, on passe. Enfin, en fait, il y a plusieurs phases en fait d'adoption. Il y a la partie un petit peu le casino. Et puis après, il y a progressivement les gens qui sortent du casino, qui essaient de comprendre autour du casino qu'est-ce qui se passe, comment marche l'outil, comment marche la techno, même sans forcément rentrer trop dans les détails techniques, mais connaître un petit peu la théorie. Et puis après, plus tard, ils apprennent à gérer eux-mêmes leurs fonds, avoir une ledger, c'est quoi les 24 mots, c'est quoi, enfin, ou MetaMask, ou peu importe, essayer d'avoir un petit peu des fonds chez eux. Ils entendent parler des hacks, ils entendent parler justement des gens qui ne possédaient pas leurs clés privées, ils s'intéressent un petit peu à ces questions de clés publiques, clés privées, comment ça marche un petit peu. Et à partir de là, en fait, je pense que c'est un long processus, en fait. Moi, la première fois que j'ai entendu parler de Bitcoin, c'était à peu près, je dis n'importe quoi, je crois que c'était vers 2011 ou 2012. Ça m'est rentré dans une oreille, c'est sorti de l'autre, tu vois. Et puis après, c'est progressif. Enfin, après, j'ai entendu encore un peu parler vers 2013. Enfin, ouais, à peu près, ouais, vers 2013. Je me suis pas intéressé tout de suite, tout de suite. Et puis après, vers 2015-2016, j'entends encore plus parler. Et donc là, c'est bon. Là, j'avais acheté mes premiers sats.
Oh,
En
ouais, c'est ça.
2016, je crois. 2007,
Bon.
2016-2017, peu importe.
Moi, c'est un peu pareil. C'est Amy qui m'en avait parlé en tout premier en 2011. T'imagines? Mais à l'époque, j'étais fauché de ouf. J'avais même pas assez d'argent pour manger tellement j'étais fauché. C'était
Pas
taré.
dur.
Ouais. Et donc, du coup, laisse tomber, même mettre $30 dans un bitcoin. Parce qu'à l'époque, un bitcoin, c'était $30, tu
Waouh, ça a été le
vois.
meilleur
Ouais,
investissement de ta life.
Et en fait, c'est ça, c'était passé de genre quand il nous en a parlé au tout début, c'était genre à 10, 10, 15 et c'est monté à 30, tu vois. Et moi, j'étais en mode, oh putain, mais non, c'est trop cher et tout, oh, c'est abusé. Mais j'en avais acheté des miettes, tu vois, et qui étaient sur un exchange en fait, qui depuis est un exchange défunt, qui est devenu Carvitex, ouais, le fameux mec qui a disparu. Qui est censé être mort en Asie, on ne sait pas trop quoi. Il y a un documentaire Netflix, je crois, sur lui. En gros, bref. Et donc c'est ça. Et je m'étais complètement désintéressé du truc. Donc j'ai pas vécu le truc de 2013 avec Mt. Gox, même si je l'observais de loin. Et c'est vraiment après où je me suis renseigné. J'ai comme, tu sais, c'était toujours là. Et je me suis dit, si c'est toujours là, c'est qu'il y a quand même quelque chose. C'est pas une arnaque, en fait. Il y a un truc, je vais peut-être m'intéresser. Et là, j'ai commencé à m'intéresser. Et souvent, la plupart des gens, c'est en deux temps, comme nous. On t'en parle, tu fais genre, ouais, d'accord. Et après, tu regardes autour de toi et tout, tu fais comme, attends, mais c'est bizarre parce que, tu vois, ça a pas l'air, ça ressemble pas à un vrai scam. Il y a des choses, il y a des green flags. Je vais regarder quand même.
Pour te donner une idée, ma grand-mère cette semaine m'en a un petit peu parlé, tu vois. Enfin, elle entendait des trucs, elle m'a dit ouais, c'est est-ce que c'est des arnaques, est-ce que machin, mais rien que le fait, tu vois, que ça remonte jusqu'aux grand-mères, c'est quelque part, c'est déjà un bon signe.
Ouais, carrément. Mais surtout que, en fait, il y a des émissions, parce que ma mère m'en a parlé beaucoup à partir de ça, c'est qu'il y a eu de plus en plus d'émissions à la télé. De podcasts où justement qui touchent ce genre de public, c'est-à-dire les gens un peu plus âgés que nous, qui ont commencé à parler des cryptos avec avec un côté positif, en disant justement, en parlant des CBDC, tous les trucs un peu, franchement, honnêtement, faut être honnête, hein, tous les trucs un peu complotistes et tout, tous les trucs un peu qui surfent un peu sur la peur et tout, ils ont commencé à parler de Bitcoin et tout, donc c'est comme ça. Je pense qu'il y a beaucoup de gens d'un âge avancé qui ont fait comme genre, oh, peut-être que le crypto c'est bien.
Je sais pas. Quelle est la différence entre une théorie complotiste et une information officielle?
Non.
Moins de 6 mois.
j'avoue les bonnes. Ouais, c'est vrai qu'en plus, il y a du vrai là-dedans, carrément. Ouais. Il y a Mister Eden qui a demandé la parole depuis tout à l'heure. Ça va?
Ouais, salut Radio, comment tu vas? Salut Cryptoman et tout. En fait, ce que je voulais dire, c'était quoi? Il y a de l'écho de mon côté. Là.
Ah, il y a de l'écho?
Il y a l'écho de mon côté.
Test 1, 2, 1, 2. Non, j'ai pas d'écho de mon côté.
J'ai enlevé le micro, là, j'ai mute, tu peux parler.
Là, c'est bon, ok. Non, en fait, ce que je voulais dire, c'est que il y a, en fait, ce qui fait le malheur là, du monde des cryptos, ce n'est pas en lui-même en soi, mais c'est plutôt ceux qui font sa promotion. Ou plutôt, je vais dire, une majorité qui font sa promotion. Parce que, étant déjà dans le cercle, quand je fais mon check-up des messages qui me viennent dans mon Twitter, genre les messages, les invitations de messages, donc de personnes du cercle de la crypto qui veulent me parler de la crypto, m'apprendre la crypto d'une certaine façon, quand tu lis le message, tu sens clairement qu'on veut te douiller. Genre, tu sens qu'on veut te vendre un truc. Et je me dis, si c'est ce message-là qui est majoritairement envoyé à des gens qui ne sont pas encore du domaine, il y a très peu de chances qu'ils aient suffisamment de confiance pour, en fait, avoir confiance en la technologie. Je pense que c'est ça qui est le problème, généralement. Heureusement pour moi que j'ai connu ce domaine tout seul. J'ai étudié la finance, je me suis intéressé au trading et disons que le Bitcoin est rentré un peu dans la foulée. Je me suis dit, ouais, c'est l'évolution logique du monde de la finance. Mais quand tu lis un peu certains messages, je vais appeler ça des messages spam, des approches spam sur les réseaux sociaux qui essayent de rafler des nouveaux entrants dans le monde de la crypto, c'est souvent pour rafler des personnes qui vont venir acheter une crypto précise. Et le modèle de message qu'ils emploient, c'est un modèle de message qui existait déjà avant. Je pense que ça, c'est déjà utilisé un peu pour vendre les petits méthodes de Ponzi, etc. Là. Et ça n'inspire pas vraiment confiance. C'est eux qui disent, franchement, si ce n'était pas eux, je pense que ce serait déjà vulgarisé jusqu'à l'heure et à l'heure à laquelle on parle. Mais juste à cause de cette forme de la communication, je pense qu'il y a beaucoup de personnes qui sont au courant des cryptos, mais qui n'ont pas confiance. Tout simplement. Justement parce qu'on les a abordés avec ce genre de message. Moi, c'est mon principal problème de ce côté-là. En tout cas, c'est ce que j'ai noté. Sinon, normalement, on aurait déjà adopté ça depuis longtemps.
Ouais, bah c'est sûr que il y a un truc, il y a un problème avec les cryptos, c'est que finalement, si l'adoption elle est lente, c'est parce qu'il y a un manque de nécessité pour le moment. Mais quand il y aura les CBDC généralisés, c'est sûr que les gens vont se jeter sur les cryptos. Mais idéalement, il faudrait que ça arrive avant, quoi. Faudrait que les gens soient préparés.
Bah, tout à fait.
Bah,
Le CBDC, en fait, ça va être. Enfin, déjà, il faut savoir qu'il y a un prototype qui est déjà en place. Alors, je ne sais plus c'est dans quelle île. Je sais plus si c'est la Réunion ou l'île Maurice, mais je crois qu'il y a un prototype qui est déjà en place. Bon, pour l'instant, ça a l'air de plutôt bien se passer. Mais ça sera vraiment fin 2025-2026, où là, ça sera. Donc là, le truc, ça sera vraiment dans nos vies. En fait, comment ça va se passer? C'est très simple. Les États vont déclarer que la monnaie cash n'a plus de valeur légale. Un petit peu comme ce qui s'est passé, comme ce qui s'est passé il y a un peu plus de 20 ans avec le passage entre l'euro et le franc. Comment ça s'est passé? Ça s'est passé très simplement. L'État a juste déclaré que le franc n'a plus aucune valeur. Et donc, il fallait les déposer. Enfin, pour ne pas perdre son pouvoir d'achat, il fallait les déposer à la banque ou la poste ou peu importe. Et en échange, on avait l'équivalent en euros. Et bien, comment ça va se passer dans 2 ans? Ça va être exactement le même concept. On va dire aux gens, pour ne pas perdre votre pouvoir d'achat, vous devrez déposer vos cachetons, vos bifetons. Et en échange, on vous crée un wallet et on vous le crédite de l'équivalent de votre cash. Enfin, pour l'instant, ne pas perdre votre pouvoir d'achat. Et les gens, enfin, une fois qu'ils sont happés dans le truc, une fois que les capitaux seront verrouillés, il n'y aura plus moyen de sortir. Et c'est à ce moment-là que justement, le gros besoin de crypto va se faire sentir. Pour l'instant, on est encore des pionniers, on est encore, enfin, entre guillemets, des théoriciens complotistes, mais ça, enfin, la réalité va dépasser, je pense, très bientôt la fiction.
Je pense que c'est assez poussé, ça.
J'ai une question, pas qui va éventuellement à l'encontre de ce que tu viens de dire. En Chine, ils ont un genre de CBDC finalement. Ils ont tout leur système de finances. Ça passe par une ou deux apps qui contrôlent un petit peu toutes les aspects de leur vie économique. Et c'est difficile. Enfin, le système est vraiment bien ficelé pour faire de sorte à ce que tout soit contrôlé. Genre, par exemple, si tu n'as pas assez de points de crédit, tu peux plus acheter des billets de train, etc. Enfin, bref, tout est hyper centralisé de ouf. Et pourtant, j'ai pas l'impression qu'il y a une énorme adoption de Monero en Chine. Tu vois ce que je veux dire?
En fait, c'est alors il y a des économistes qui ont été, enfin des économistes agroalimentaires qui ont une théorie très simple. En fait, c'est la différence entre la culture du blé et la culture du riz. Par exemple, en Europe, on a la culture du blé. Ça veut dire qu'un fermier, il fait ce qu'il veut sur son carré. Et donc ça développe la personnalité individualiste. Alors que la culture du riz, c'est pas un carré. Tu fais ce que, enfin, chaque paysan fait ce qu'il veut sur son carré. Ça marche de même. Enfin, il faut prendre une décision arbitraire et collective. C'est pour ça que les gens se soumettent plus facilement à l'autorité de l'État, de la communauté. La communauté, en fait, c'est plus important que l'individu chez eux. Donc, ce genre de mesures, ça passe plus facilement dans les pays asiatiques et ça passera, je pense, un peu moins en Europe.
Ça, c'est un point.
Ouais. Ouais, carrément, c'est possible. Mais imagine, ça se passe ici comme en Chine finalement. Je sais pas, je pense qu'ils vont tout faire les gouvernements pour faire de sorte à ce que les gens adoptent les CBDC avec enthousiasme. J'ai peur de ça.
Alors les gens, enfin, je discute avec les commerçants, même qui sont pas du tout des bitcoiners, enfin, vraiment des no-coiners. Je discute, je sais pas, au marché, au truc. Alors les gens sont réceptifs, entre guillemets, enfin sont réceptifs à mes arguments. Ils se doutent bien qu'il y a quelque chose qui se prépare, même s'ils veulent pas encore faire le pas. Mais je pense qu'ils sont pas du tout, mais alors pas du tout enthousiastes à l'idée des CBDC, parce qu'il y a encore un petit peu la culture du cash, en tout cas pour les commerçants et les indépendants, il y a une culture de la défiance de l'État. Qui est très présente, hein, chose qu'il n'y a pas du tout, par exemple, chez les salariés du tertiaire, où alors là, l'État, c'est l'alpha et l'oméga de toute leur vie, et ça va pas plus loin. Je pense qu'en fait, entre guillemets, le public le plus réceptif à nos idées, ça sera d'abord les commerçants, enfin les artisans et les commerçants. Même si aujourd'hui, à l'instant T, tu peux pas dire à ton plombier, ton serrurier, tiens, accepte Bitcoin sur, sur la L de Lightning, il va te regarder comme un alien, quoi. C'est évident. Mais je pense que quand le moment sera venu, je pense que c'est ce public-là qui sera le plus demandeur de formation.
Ouais, moi, t'as probablement raison. Oui, vas-y.
J'ai une théorie. Par exemple, dans mon environnement ici, chez moi, il y a quelque chose qu'on appelle le mobile money. En fait, c'est de l'argent virtuel. On n'a qu'à appeler les mots. C'est juste des chiffres sur ton téléphone. Et ça, c'est tellement vulgarisé ici que c'est... Franchement, c'est l'un des moyens d'échange de monnaie les plus utilisés. En tout cas, ne serait-ce que dans mon environnement direct. On s'envoie de l'argent par mobile money, quel que soit là où la personne est sur le territoire. On peut aller acheter, payer en mobile money. Donc, je prends mon téléphone, je tape, et j'envoie les sous. Et si j'ai besoin de liquide, si j'ai besoin de l'argent liquide, je vais dans une agence, dans un point, et je fais un retrait. Et que ce soit les transferts, les paiements ou le retrait, il y a des frais de transaction qui rentrent en cours. Donc, moi, et les gens se sont tellement accommodés de ça que les frais de transaction ne veulent plus rien dire. Franchement, en une journée, je peux faire 10 transactions par mobile money et que ces frais de transaction se retrouvent en fait à être élevés, mais je ne m'en rends même pas compte. C'est devenu un quotidien. Et je me dis que la meilleure issue, en tout cas la plus probable dans ma tête, pour les crypto-monnaies serait ça, c'est-à-dire que ça devienne une monnaie, que des structures se mettent en place pour fournir une plateforme d'échange un peu plus rapide et que les gens, s'ils ont besoin de retirer du cash ou de retirer certaines monnaies précises, vont dans des points ou vont sur des sites, sur des plateformes et lancent alors ces retraits-là et des frais s'engagent. Franchement, c'est ma théorie la plus réaliste que j'ai pour l'évolution. Parce qu'en fait, on parle en gros de l'argent numérique, en fait. De l'argent qui puisse être dans nos téléphones, qu'on puisse échanger de façon beaucoup plus rapide que sortir des billets, aller rencontrer la personne en physique et remettre. Et échapper un peu au contrôle de l'État. Et le mobile money ici, ce n'est pas l'État qui gère. Ce n'est pas particulier qui gère. Ce sont les réseaux mobiles qui le gèrent et franchement, l'État, il a beau vouloir taxer là-bas, mais il ne peut pas faire grand-chose là-bas. Mais l'utilité y est, l'accommodation de la pratique aussi s'est fait sentir. Et je pense que de façon plus globale, si on va appliquer ça à une échelle plus grande, c'est les crypto-monnaies qui vont vouloir jouer ce rôle-là. Et c'est franchement l'évolution la plus saine, la plus calme, la plus tranquille que ça puisse avoir. Imposer ça au gouvernement, ça va être vraiment forcer la porte. Et que le gouvernement prenne totalement le contrôle, donc, d'une certaine façon, ça aussi, c'est clairement forcer la porte. Et dans l'un ou dans les deux cas, ça ne va pas le faire. Donc, ce qui va profiter à tous les deux, c'est que ça aille dans ce sens-là, que ça devienne une monnaie numérique, donc pour des échanges plus rapides, plus mobiles, plus digital et au besoin de l'argent fiat, au besoin de la matière pour des échanges beaucoup plus approximatifs, beaucoup plus proximatifs que les anciennes monnaies rentrent en jeu. Donc, on fait juste une conversion, un retrait de liquide pour faire certaines dépenses beaucoup plus, soit certaines dépenses ou faire même des économies, parce qu'on fait des retraits chez nous ici, par exemple, pour faire des économies, tu mets de l'argent liquide dans ta caisse. Tu ne vas pas mettre un mobile money comme une économie. Donc, franchement, c'est ma théorie la plus réaliste. Après, si on va suivre la philosophie du Bitcoin, ça va être vraiment forcer la porte et ça, bon, c'est chaud.
Ok, très bien.
Ouais. Ouais. Et ce qu'il faudrait, en fait, c'est des gens qui développent des solutions, des plateformes, des wallets, des trucs comme ça, des choses, en fait, qui sont faciles à utiliser par le commun des mortels, que ce soit pour les utilisateurs. Ouais.
Alors, tu vas pas le croire, j'avais un prototype qui marchait plutôt bien, qui était capable de détecter, par exemple, de détecter un paiement en Monero et après d'ajouter une nouvelle entrée à la base de données, de faire plein de trucs en callback. Le problème, je me suis dit, si jamais j'essaie de commercialiser ça, je sais mécaniquement que ça va être utilisé dans des, voilà, dans des activités entre guillemets peu recommandables. Et donc, ce qui voudrait dire que je pourrais me retrouver légalement responsable des conneries des utilisateurs. Chose qui n'est pas l'objectif au départ. Donc pour l'instant, c'est un peu compliqué, quoi. Il y a surtout, enfin, pour l'instant, il y a le wallet Monero. Il y a Cake Wallet qui fait un super boulot. Il y a des applications comme Phoenix sur le L2 Lightning. Mais on peut pas vraiment, en tant qu'entreprise, avec un numéro de TVA, un machin, un siège, une société, tu peux pas vraiment faire un processeur de paiement full Bitcoin, quoi. C'est très très risqué au niveau juridique.
Mais pourquoi tu veux absolument t'incorporer? Pourquoi tu fais pas ça à l'ancienne? Pourquoi tu fais pas ça genre sans entreprise, sans rien?
Après, comment tu fais pour le but de ça? Alors il y a des mecs ça qui font ça de façon un peu volontaire, ce qui est très, enfin, bénévole, ce qui est très bien. Mais comment tu te rémunères, quoi?
Ah, ben, tu peux pas mettre un pourcentage, genre de 1% sur les transactions, ou 0,5%, ou 0,1%, ou, tu vois, tu peux pas prendre une com minime.
Ah, si, alors le problème, c'est que si tu prends une com et que l'utilisateur utilise ton système de paiement pour faire des conneries, et dans Monero, on sait que ça va être le cas, on sait dès le départ que ça va être le cas. On peut s'exposer à de très très gros problèmes.
Ouais, mais tu t'en fous. Je veux dire, à partir du moment où ça arrive sur un compte, ça arrive sur un compte Monero, personne peut savoir que c'est à toi, etc. Enfin, tu vois, si tu fais ça bien, j'imagine que tu t'en bats les couilles, non?
À partir du moment où le code source est sur GitHub, c'est que c'est toi. Voilà. Alors, sauf si depuis des années, t'as jamais laissé traîner ton IP en clair, tu t'appelles Snitchy, t'es planqué derrière 3 VPN et le réseau Tor. Là, dans ce cas-là, c'est possible de passer entre les mailles du filet. Moi, je pense que GitHub, mon IP, ils l'ont depuis des années. Ils savent, je pense qu'ils en savent plus sur moi que, enfin, peut-être autant sur moi que Google.
Bah, tu vas, tu fais un petit voyage en Russie, tu crées un compte GitHub là-bas, tu vas.
Ouais, mais après, on sait tous qu'il y a la problématique, en fait, de la maintenance, il y a les mises à jour, parce qu'en fait, tu peux faire un prototype, tu fais une bêta. Il y a toujours, sur des centaines d'utilisateurs, il y a toujours un cas qui n'était pas prévu, une exception qui n'est pas catchée, on le sait, donc il faut toujours de la maintenance. Donc après, si à chaque maintenance, je dois faire un tour en Russie et tout ça, ça va me coûter cher en billets.
ouais, c'est sûr. Il y a Crypto Turtle qui voulait dire quelque chose, ça va? Crypto Turtle? Es-tu avec nous? Allô?
Non, bah manifestement, il n'est pas là.
Je pense que son micro.
Ah, ces gens qui ont des problèmes avec leur micro, je ne comprends pas. Franchement, n'importe quoi. Paul WCZ qui dit « Impossible de publier en open source anonymement ?» Point d'interrogation.
Alors, c'est possible, enfin, techniquement, c'est possible. Après, y a, à part GitHub, il y a d'autres plateformes qui existent. Ouais, il y a GitLab, il y a GitEA, tout ça, mais tu t'oublies une fois, tu vois, une fois, une seule, de pas te connecter à VPN, tu laisses ton IP en clair. Voilà, c'est bon, ils ont ton truc, ils ont ton adresse. Ils ont ton adresse, ils peuvent faire le regroupement avec ton fournisseur d'accès. Ton fournisseur d'accès peut faire le regroupement avec ton adresse physique. Soit t'es en mode snitchy, soit c'est très compliqué.
Ou alors, il y a une autre méthode. Si t'as vraiment peur d'avoir des utilisations qui sont totalement incontrôlées, et que t'as pas envie d'être associé à ça, bah, tu fais un truc gratuit. Et c'est ton portfolio, en fait. On sait que c'est toi qui l'as fait, mais tu n'es pas responsable des gens qui l'utilisent. Tu n'en fais pas une utilisation commerciale. Et puis ensuite, tu fais d'autres projets payants à côté.
Ouais.
Tu expliqueras ça au fondateur de Tornado Cash, qui lui est encore... Enfin, c'est un Hollandais qui lui est encore en prison. Donc je pense que enfin, au niveau des dernières lois enfin, qui sont passées il y a pas longtemps, je pense que ça marche pas comme ça. Tu vois, tu peux pas dire ouais, j'ai juste lâché du code source et après les gens font les coups avec. Faut prendre un petit peu de précaution, je pense.
Ouais, mais alors comment on fait dans ce cas-là? Parce que tu es en train de me dire, genre, il faut aller voir les gens, leur dire d'utiliser Monero, etc. Il faut que de plus en plus de commerçants l'adoptent. Et d'un autre côté, tu dis, mais c'est super
Oui.
risqué, on va tous aller en prison, on va se
Non,
faire
non,
tuer.
c'est en tant qu'utilisateur. En tant qu'utilisateur, tu risques rien. Par contre, en tant que concepteur, le mec, enfin, l'un des mecs qui était derrière l'équipe, là, enfin, Fluffy Pony, lui, il a eu de grosses emmerdes. Enfin, il est passé, bon, il est pas assez longtemps en prison, mais il a fait un petit tour par la case prison. Donc, voilà, en tant que concepteur, enfin, en tant que codeur, que concepteur, on s'expose quand même à plus de trucs.
Ça veut dire que ça va être quoi les outils pour ces trucs-là en fait, pour ces transactions et pour le management des business qui vont utiliser Monero ou des utilisateurs et tout. Qui va faire ces outils du coup quand ils vont venir d'où? Forcément, qu'il y ait des gens
Alors, ils vont
qui
venir
fassent
de
ces
gens
choses.
très très courageux, bon très courageux, ou alors de peut-être, enfin, peut-être de mecs en mode snitchy. Bah justement, je bosse, enfin j'ai à une période, je bossais un petit peu sur Dero, tu vois, qui est un autre système de paiement anonyme, et j'étais en contact avec Captain, enfin le enfin entre guillemets le grand
Le mec
chef,
de Dero,
le mec de Dero. Alors lui, je pense, il fait à peu près un poste tous les 6 mois. Lui, pour le coup, je pense que lui, il est vraiment planqué derrière 3 VPN et le réseau Tor. Parce que enfin, c'est technologie enfin, aussi anonyme que Monero, si ce n'est pas un peu plus. Et le jour où il est identifié, il va avoir de très, très gros problèmes. Donc voilà, c'est pas. Enfin, la gestion de ce type de projet, c'est très compliqué. Tu vois, ce n'est pas genre un shitcoin, un Shiba Inu, où tu peux avoir un CTO, une adresse. Un code de TVA, un code SIRET, et tu t'en fous, tu risques rien, c'est la fête du slip. Quand tu bosses sur les technologies, enfin, sur l'anonymat financier, c'est déjà un peu, enfin, c'est déjà au niveau, c'est déjà beaucoup plus compliqué.
Tu voulais rebondir là-dessus, Mister Eden?
Non,
Ok.
non. En fait, je réfléchis toujours à la problématique là. Genre, je n'admets pas que c'est impossible d'avoir une solution simplifiée pour ce truc. Il y a forcément une solution simplifiée.
Après,
Il
ouais,
y
je...
a. Ouais.
Non, vas-y, je te le champion.
Ah, bah en fait, je voulais juste lire un commentaire de Sony Steph qui dit la grande adoption se fera par l'application bancaire des banques. Ils ajouteront un petit wallet, Bitcoin ou CBDC et basta, à mon avis. Peut-être c'est ça, hein.
Alors, les banques, en fait, elles ne sont pas ouvertes au Bitcoin tant qu'elles ne touchent pas de commission. Là, ce qui se passe, enfin, là, si tu vas n'importe quel banquier, il va dire, ouais, c'est un scam, c'est un scam, machin, le blanchiment, les activités illégales, tout ça. Pourquoi il a ce discours? Parce que, bah, justement, parce que le business du banquier, c'est de toucher une petite commission sur chaque transaction. Alors qu'avec, par exemple, les ETF, si Jean-Michel Boomer, pour acheter son ETF, il passe par la banque et que la banque enfin, touche un petit quelque chose. Là, curieusement, le banquier va dire, bah, Bitcoin, ouais, c'est un investissement de bon père de famille, de bon grand-père. Tu vois, ça dépend qui touche ou pas.
Ouais, logique.
Il y a Oui.
Je pense que les banques n'ont pas encore pu trouver où est-ce qu'ils vont se placer entre l'utilisateur et puis le réseau. C'est-à-dire le transfert de valeur qui va se faire entre l'utilisateur et puis le réseau. Si la banque va, comment je vais dire, promouvoir ça, c'est qu'elle a trouvé son intérêt, évidemment, comme Cryptoman l'a dit. C'est-à-dire qu'elle a pu se trouver une place entre le mouvement de valeur qui va se faire entre l'utilisateur et le réseau. Et ça, c'est compliqué. Pourtant, il y a une possibilité. La possibilité, elle est simple. Les transactions que les gens font, ce n'est pas toujours des grosses transactions. Et la plus grosse masse de transactions, ce sont des micro-transactions. Tu vois, les petits fonds là, 2 euros, 2 dollars, 5 dollars, juste à envoyer à quelqu'un à côté un 10 dollars. C'est ça les plus grosses transactions. Et si ils pouvaient mettre en place, normalement, c'est les banques que j'ai étudiées. Donc, théoriquement, dans ma tête, ça passe. maintenant dans l'application, du côté des codeurs et tout, je ne sais pas comment ça va se faire. Si tu mets en place une plateforme où les gens, s'ils viennent juste faire une transaction de grande valeur, c'est-à-dire ils font ce qu'on appelle un dépôt, et sur la base de cette transaction, moi, mon système leur assure de faire les microtransactions sans avoir à faire des virements blockchain. Donc, envoyer 5 euros à telle personne, moi, ma comptabilité va se charger de faire le transfert de fonds, en tout cas des chiffres, à gauche, à droite, à gauche, à droite. Et qu'au moment où celui-ci veut faire un retrait de valeur, en gros, évidemment, ça fait une nouvelle transaction qui, elle, peut être une transaction genre blockchain. Normalement, théoriquement, ça va le faire. Maintenant, les banques, là, c'est comment la formule qu'ils vont trouver pour pouvoir se mettre là-dedans, là, qui est en train j'imagine, de leur poser problème.
OK.
Sinon, ils ont beaucoup à y gagner. Ils le savent. Justement, ils le savent, ils ne vont pas promouvoir ça tant qu'ils n'ont pas trouvé comment est-ce qu'ils vont gagner là-dedans.
Alors, on va un petit peu rebondir. Donc, ouais, sur le post que j'avais fait qui a suscité beaucoup d'attention, qui a un petit peu interpellé quelques personnes, je voulais revenir sur le post. C'était j'avais retweeté la vidéo de Collectif Sortie de Banque et j'expliquais justement que tout le système repose sur le pillage des laborieux par les parasites via l'impression monétaire. Si moins de 50 000 personnes apprennent ce soir à utiliser Monero, le régime tombe avant demain matin. Alors en fait, qu'est-ce que j'ai voulu dire ? En fait, quand on s'intéresse à la crypto, c'est surtout pour se demander comment on peut être riche en futur. Moi, j'ai un petit peu pris le problème à l'envers. Je me suis dit, pourquoi on est pauvre ici, là, la plupart d'entre nous ? Pourquoi on est pauvre aujourd'hui ? On est pauvre justement à cause de ces monnaies qui sont imprimées par les États, par les gouvernements, et donc qui se dévaluent en fait. Donc là, quelque part, par l'impression monétaire, ils nous prennent un petit peu notre pouvoir d'achat, de notre du fruit de notre travail.
Il
faut savoir en fait, par exemple, typiquement la masse de retraite qu'on a en Occident ou la masse de fonctionnement de l'État. Bah, comment ça marche en fait ? Les États, les gouvernements n'ont pas le premier sou, ils sont pas le premier centime pour entretenir tout ça. Donc comment ils font ? Ils créent de la monnaie à partir de rien. Et après, c'est à charge aux gens qui bossent, c'est-à-dire ceux qui sont dans la trentaine, ou entre 30 et 60 ans, qui sont en âge de bosser, après, c'est à notre charge de rembourser la différence. Et c'est pour ça, c'est comme ça qu'ils nous tiennent. C'est comme ça que, malgré des centaines, des milliers d'heures de travail, la plupart d'entre nous, tu regardes il y a 6 mois, ou il y a 1 an, tu regardes aujourd'hui, on n'a pas trop bougé au niveau économique. Donc voilà, c'est ça, c'est le vol par l'impression monétaire. Donc moi, ce que je dis justement, c'est que si la plupart des gens n'accordent aucune valeur à cette impression monétaire, à ce système monétaire qui dépend des États, en fait, ils peuvent plus payer leurs fonctionnaires, ils peuvent plus payer leurs boomers, ils peuvent plus payer tout plein de trucs, et ben le système s'écroule. Et en fait, c'est ça, c'est tout le régime repose sur notre croyance dans le système monétaire. Donc voilà, il faut pas grand chose, ça repose sur rien. Là, cette semaine, on a eu les chiffres, les chiffres justement de la dette. Hein. Je pense que là, c'est un petit peu la panique. Enfin, c'est la fausse panique. L'État, parce qu'ils vont faire, ils vont encore imprimer de la monnaie, ils vont encore créer de la dette, et puis ça sera à nous de rembourser. Bah, ce qu'on fait, c'est très simple. On essaie de progressivement de dire aux gens, voilà, on a un autre système monétaire alternatif. Et si tout le monde l'utilise, l'impression monétaire n'a plus aucun effet. Donc là, on peut changer le régime en fait par le libre marché. On peut changer le régime par le changement de paradigme monétaire.
Ouais.
C'était plus le fond de ma pensée.
Ouais, mais t'as complètement raison.
C'est la raison.
Mais il y a un post de csjoanna.lens, j'ai plus de voix, qui dit, c'est une image, c'est marqué en haut, donc c'est le mime avec Drake, qui dit en haut « fully decentralized project », donc le projet complètement décentralisé, sans intermédiaire, ils sont comment on dit en français, ils sont à l'extérieur ils sont pas concernés par Mika, Par contre, si les autorités locales disent, bah, sauf si le projet en question a un front-end, ça rejoint un peu ce que tu disais tout à l'heure sur le risque de créer des applications complètement décentralisées. Il y a toujours un point de fêlure, il y a toujours un
La
truc
single
qui
point
est.
of failure, c'est
Ouais.
le serveur. Bah, typiquement, enfin, toi, la DeFi. Alors, la DeFi, en fait, c'est un bien gros mot, c'est-à-dire que ça dépend quand même au bout du bout d'un serveur central avec un serveur Apache, un serveur Nginx. Il n'y a personne qui va connecter son wallet MetaMask avec les RPC, avec le daemon Ethereum, ça n'existe pas. Donc, il y a toujours une single point of failure, donc c'est pas si décentralisé que ça.
Ouais, et ça me rappelle, ça c'est vraiment l'histoire de nos vies, l'histoire d'Internet, quoi. Je sais pas si vous vous souvenez de Napster, qui était vraiment le premier truc de téléchargement pair à pair avant Torrent et tout. Alors, en fait, Torrent, toute la technologie BitTorrent et tout, c'était construit pour pallier en fait aux défauts de Napster. Je sais pas si vous savez comment est tombé Napster. Mais c'est fascinant en fait à étudier l'histoire du développement du peer-to-peer en fait. Donc pour ceux qui savent pas, l'App Store c'était un truc fin des années 90 qui permettait de télécharger des fichiers MP3. Ça a énormément contribué à la diffusion des MP3 en fait, parce que avant ça tu pouvais pas, c'était vraiment difficile d'échanger de la musique, des fichiers en général, mais surtout de la musique parce que c'était format web et tout. Puis y a un mec qui a inventé les MP3 et tout d'un coup c'était plus réduit. Et donc Napster, l'idée c'était voilà, t'as des MP3 sur ton ordinateur, il y a un autre mec à l'autre bout de la planète qui a des MP3 sur son ordinateur, vous devriez être capable de vous échanger ces MP3 de l'un avec l'autre sans passer par un serveur centralisé. Et donc l'idée, donc c'est du pair à pair parce que tu télécharges les MP3 directement sur le disque dur, enfin depuis le disque dur d'une autre personne et inversement. Mais le problème, c'est le nerf de la guerre finalement, c'est comment tu sais qui a des MP3 à disponibilité pour toi quelque part sur Terre. Et en gros, Napster faisait ça, c'est-à-dire que ce qu'il faisait, c'est que d'ailleurs, cette histoire de découverte des autres acteurs du réseau, c'est toujours un problème qu'on a aujourd'hui. C'est-à-dire que c'est pas un truc, on a jamais élucidé ce problème-là. Il y a pas, moi pendant un moment, je pensais que si tu veux, par exemple, même pour ce qui est de la technologie blockchain, je pensais que, bon, en fait, nos le software, il allait chercher quelque part sur Internet, et puis dès qu'il tombait sur un client, il le mettait dans son petit registre de clients. Non, non, ça passe pas du tout comme ça, se marche pas du tout comme ça. Bref. Et donc Napster, comment il faisait? Bah, en gros, il y avait un serveur central, le serveur de Napster, où il y avait la liste de tous les gens de tous les peers, en fait. Et c'est comme ça qu'ils sont tombés, parce que, en fait, les Feds, ils sont arrivés, ils ont fait comme, ouais, ok, vous êtes décentralisé, mais n'empêche que c'est vous qui mettez à disposition, c'est vous qui mettez en relation les gens, en fait, parce que vous avez un serveur centralisé avec juste la liste des IP. Et ça nous suffit. Et donc, c'est comme ça que Napster est tombé. Et c'est comme ça que BitTorrent est né après, parce que l'idée, c'était de se dire, ok, cette liste des peers, elle doit être décentralisée aussi. Comme ça, pas de problème. Et donc, voilà pour la petite histoire.
Je n'ai pas connu
Mais.
Napster, mais j'étais directement sur Emule. Enfin, j'ai connu Kazaa, Shiraza, Idonki, Emule. C'était les quatre que j'avais à l'époque. C'était une grande époque du peer-to-peer. Surtout Emule que j'ai beaucoup apprécié. Voilà, entre guillemets, c'est un petit peu l'ancêtre. Ces technologies-là, c'est un peu l'ancêtre de Bitcoin, en fait. Mais pas forcément de Bitcoin en tant que tel, mais le daemon, en fait, enfin une partie du logiciel qui est le daemon, qui fait la liste des IP et qui se connecte les unes aux autres, en fait.
Ouais. Et il y a, vu qu'on parle de ce sujet-là, il y a toujours CS Johanna qui a posté le mime avec Drake, qui dit chez Shift DAO, on travaille sur un front-end sur IPFS pour pas être censoré, pour pas être censuré, le mot en français. Et donc, ouais, c'est pas mal ça, un front-end sur IPFS. Je sais pas comment ça fonctionne, mais l'idée est pas mal. Mais N'empêche que tu es obligé de te connecter quelque part à un moment donné, hein? Comment ça marche? Je sais pas trop.
Ben, je sais pas, peut-être qu'il faudra passer par le réseau. Alors, peut-être pas
Tor?
forcément Tor, mais Itoupi. Peut-être, ouais, peut-être qu'il faudra se passer par Itoupi. Il n'y aura pas forcément besoin en fait d'un gros serveur central, mais juste en fait un petit logiciel. Chacun fait tourner un petit logiciel qui récupère la liste des démons, la liste des IP, qui a sa petite base de données d'IP en local, qui se met à jour, tout ça. Enfin, ça devrait, ouais, je pense que c'est plus décentralisé. Je sais que Monero fait ça. Et même Bitcoin fait ça, tu as un fichier peer.json. Et à l'intérieur de ce fichier peer.json, tu as la liste de tous les IP. Et chaque participant du réseau met automatiquement à jour, transmet sa base à son voisin, qui lui-même transmet la base au voisin. C'est comme ça que la liste des IP grossit progressivement, sans forcément qu'il y ait un single point of failure.
Ouais. Et il y a Paul qui dit, pour répondre un peu à ce qu'on disait tout à l'heure sur la DeFi, enfin ce que tu disais sur la DeFi, il dit la DeFi, c'est pas nécessairement centralisé, il y a des services de lending borrowing qui passent à 100% par des smart contracts. Je pense à Atom, donc Hatom, protocole que j'utilise en ce moment. Je sais pas ce que c'est.
Ouais, certes, ouais, c'est une possibilité, mais comment tu accèdes à ces services? Tu fais pas tourner le daemon Atom chez toi, tu lances ton navigateur, tu mets l'URL dans la barre d'adresse, et puis tu te connectes au service. Donc du coup, si le service il n'a pas forcément besoin de tomber, mais s'il te transmet des fausses informations, et en tant que développeur back-end, je sais que c'est très facile de transmettre n'importe quoi au client. Si le voilà, enfin le serveur en fait peut faire ce qu'il veut. Faut vraiment bien comprendre que dès que tu ouvres ton navigateur et tu mets une IP dans la barre d'adresse, enfin, ou tu mets une IP ou une URL, c'est-à-dire que derrière il y a un serveur configuré. Alors après, peut-être que l'administrateur est bienveillant, peut-être que c'est très bien, c'est ce qui se passe dans 99% des cas. Il suffit que dans 1% des cas, il décide soit de rug pull ou soit de truander ou soit enfin c'est enfin, de transmettre des fausses informations et tu ne peux rien voir. Côté client, tu peux rien voir. Donc, il faut être extrêmement méfiant avec ce qu'on appelle entre guillemets la DeFi.
Bien dit. Et puis, je voudrais juste dire que j'ai cliqué et j'ai vu que le fameux Atom, c'est sur Multiverse X. Le
C'est quoi ce
mal.
fameux Multiverse X? Parce que je connais. Enfin, en ce moment, j'entends pas mal de gens qui m'en parlent. Je connais pas du tout. C'est
C'est
quoi? C'est
pas.
de Facebook, c'est ça?
Non, c'est pas anciennement Elrond?
Je connais. Bon, alors, moi, sorti du proof of work, parce que moi, ce que j'ai compris, c'est du proof of stake. J'ai pas cherché plus loin. C'est aussi simple que ça. Mais alors, est-ce que c'est quoi comme type de projet? Est-ce que quelqu'un le connaît d'ailleurs?
Y a quelques shillers de Multiversix un peu partout. Et je crois que c'est ça, c'est l'ancien Elrond. Et c'est un truc, d'après moi, qui est vraiment centralisé. Je sais qu'on va me dire non, c'est pas vrai. mais c'est en fait, alors peut-être pas techniquement, mais c'est centralisé politiquement, parce que c'est un mec qui, en gros, qui a créé le truc et qui est l'alpha et l'oméga de toutes les updates et les machins qui sortent et les features, etc. Donc il y a ce truc-là, en tout cas ce point en fêlure, vu qu'on parle de ça. Mais après, techniquement, je sais pas trop comment ça se passe. Je me suis jamais vraiment penché là-dessus. Je sais qu'il y a à peu près un an, il y avait Agathe qui avait fait un space juste là-dessus. Donc, il faudrait que je le retrouve éventuellement. Mais ouais, j'en sais pas plus que ça en vrai. Je sais juste que, tu sais, c'est un peu comme si t'aimes pas la centralisation de Solana, par exemple. Alors que c'est un débat d'ailleurs en ce moment, est-ce que Solana c'est si centralisé que ça? Il y a de plus en plus de gens qui défendent le Solana, j'ai l'impression. Mais alors, du coup, si t'aimes pas Solana, t'aimeras jamais Elrond, c'est encore pire. Voilà, c'est mon analyse de la situation.
Alors Solana, en fait, moi j'ai bien aimé travailler avec, en tant que dev, c'est un bonbon, quoi. C'est-à-dire que les API marchent, c'est bien documenté, tout ça. Là, je bosse en ce moment vraiment sur Bitcoin. La documentation, enfin vraiment Bitcoin, c'est beaucoup plus compliqué qu'Ethereum et Solana, quoi. Enfin, Solana, c'est un bonbon. Par contre, il faut savoir que la blockchain, elle grossit de 160 Tera par an. On va faire un petit sondage ici. Qui a un téra disque dur sur son disque dur là tout de suite? À mon avis, pas grand monde. Alors, t'imagines 160 téra, c'est impossible que ce soit des particuliers qui fassent tourner ça. Je pense que c'est tous les serveurs, tous les nœuds sont chez Amazon. C'est impossible autrement.
Mais tu peux pas avoir un nœud qui a pas toute l'historique de la transaction?
Bah, je sais pas, ou alors tu vas, je sais pas, tu vas chez matériel.net, tu leur dévalises tous les disques durs, et encore ça coûterait quand même un sacré budget pour un particulier. Non, c'est pas possible. C'est pas possible que ce soit décentralisé.
Ouais.
Et encore quand ils se vendent d'avoir, je sais pas, genre de 200, 300 nœuds, j'y crois pas. S'il y en a une quarantaine, je pense que c'est le bout du monde.
Il y a El Aventador qui a demandé la parole. Salut. Hola, amigo.
Hola, hola, ¿cómo estás?
Ça va?
Hola.
Sí, sí, muy bien. Non, sérieusement, les gars, oui, j'écoutais. À vrai dire, ça faisait à peine 10 secondes. Et mon doigt a glissé sur demander intervention. Donc, je vous laisse un peu encore débattre et voir où est-ce que je pourrais intervenir.
Bah, ton avis peut être intéressant si tu veux revenir sur un point. Moi je t'écoute hein, parce que j'ai beaucoup jacté jusqu'à présent. Et puis,
ok. Bah, écoute, j'écoute encore un peu parce que, comme je dis, ça faisait à peine 10 secondes que j'étais là. Donc, j'attends un peu d'en entendre un peu plus avant de débattre avec vous.
Ok.
Ok, ouais, ok.
Merci.
Ah oui, donc globalement, donc Solana, donc c'est un bonbon à bosser. Après, je connais pas Multiverse en tant que dev, faudrait que je regarde un petit peu leur dev, enfin leur documentation, comment elle marche. Mais je pense que ça doit être bien conçu. Il y a vraiment, enfin vraiment à l'opposé, tous ces trucs en proof of stake, Bitcoin, c'est assez compliqué en fait de bosser dessus. C'est-à-dire qu'il faut savoir que la plupart des commandes wallet sont dépréciés maintenant, enfin ne marchent plus, enfin ne marchent que pour les formats legacy. Donc, enfin, c'est très compliqué d'exporter, enfin de créer une clé privée par exemple de l'extérieur et de l'importer dans Bitcoin Core. Donc il y a toute une manip, c'est horrible. Alors je sais que l'inverse est carrément impossible, c'est-à-dire de créer une clé privée dans Bitcoin Core et de l'exporter vers l'extérieur, ça c'est impossible. C'est enfin vraiment travailler avec Bitcoin, c'est pas aussi agréable qu'Ethereum.
Ouais, bah d'ailleurs, alors, je sais pas si j'ai eu un bug ou quoi. Genre, à un moment donné, j'ai vu qu'il y avait comme 70 personnes qui se sont connectées, j'ai rien compris. Mais là, ça a l'air d'être venu à la normale. Mais en gros, j'ai l'impression qu'on parlait de l'adoption au final, et en fait, j'ai l'impression que ça va se jouer à ça. Genre, ça va être. Peut-être que l'adoption, ça se trouve, c'est une crypto qui n'est même pas encore née. Ou peut-être que oui, c'est une crypto qui est née, mais celle dont on s'attend le moins. Ce sera par exemple un environnement de développement qui sera facile d'accès. Donc justement, peut-être pas Bitcoin, peut-être pas d'autres comme ça qui sont difficiles à travailler avec. Et en même temps aussi, probablement pas une crypto qui t'envoie directement à la case prison si tu fais le fou comme on a dit tout à l'heure avec Monero ou quoi. Donc peut-être qu'il y aura une espèce de, tu sais, ce sera une espèce d'entre deux, un truc qui va s'imposer aux commerçants ou aux utilisateurs ou peu importe là, un truc en fait l'adoption ça va peut-être se jouer à ça. Je sais pas.
Alors, paraît-il qu'il faut Elon Musk bosse sur un projet en fait. Comment s'appelle l'application en Chine? alors, il y a Dogecoin, enfin, basé sur Dogecoin. Tu sais, tu m'as parlé d'une application en Chine où, je sais plus comment ça s'appelle, c'est un truc qui fait, ça fait portefeuille, ça fait tout, et ça fait message.
Ah oui. Oui, quelque chose, WeChat,
un truc comme ça.
Mais c'est là où il veut amener Inx en fait.
Il a laissé sous-entendre il y a quelques années que Dogecoin pourrait être le système de paiement de Twitter et que le système de paiement de Twitter s'apparenterait à WeChat, le machin qui fait paiement, carte bleue, mobile. Donc ça serait possible en fait. Ça serait complètement truc, enfin complètement complètement bizarre que bah, le Dogecoin qui était, bah, qui était une grosse blague au départ s'impose au niveau institutionnel, au niveau des commerces. Bon, moi j'y crois pas, mais l'idée est marrante.
Franchement,
clairement, moi j'y
crois
pas non plus. Moi, j'y crois pas du tout, du tout.
Vous pensez pas? Parce qu'en plus, il a dit que Elon Musk il voulait à terme, l'objectif finalement, ce serait de mettre Twitter en open source. Donc peut-être que c'est ça le master plan, tu vois, c'est de faire de sorte à ce que les paiements soient possibles, etc., que ce soit une application où justement tu puisses faire tout, en fait tout, tu puisses avoir dessus toutes tes activités sociales et économiques, et boum, tu passes ça en open source et merci, bye.
Quand tu veux dire open source, c'est-à-dire le code source backend de Twitter serait open source?
Ouais, j'avoue, c'est un peu fou. Mais
je pense qu'il a déjà répondu à ça dans le passé. Il avait fait un truc du genre, ça ressemblait à de l'open source, mais c'est pas totalement de l'open source, mais ils avaient publié des codes de Twitter, etc. Je pense qu'il a déjà réglé par rapport à ça. En ce qui concerne le moyen de paiement sur sa plateforme, pour un gars qui a créé PayPal, il a déjà les moyens d'instaurer ça sur son application. S'il l'a pas encore fait, c'est qu'il a il est clairement conscient que la formule n'est pas encore adéquate. Et je sais déjà capté que le gars, il n'aime pas perdre l'argent et il va pas prendre des risques qui ne sont pas calculés. Donc, pour le moment, s'il l'a pas encore fait, c'est que clairement, il se rend compte que c'est chaud. Et avec la masse de crypto-monnaies qui, disons, qui vit sur son application, il va pas se hasarder à en choisir une pour en faire un moyen de paiement. C'est pas encore échafaudé de son côté. Donc, je pense pas qu'on va avoir une issue là tout de suite. Et pour les cryptos en général, dans le sens de pour avoir une adoption, je pense pas que c'est une crypto qui va sortir et venir régler le problème, mais ce serait beaucoup plus une technologie qui va venir et apporter une solution que une bonne partie des cryptos vont alors utiliser pour améliorer leur offre et donc pouvoir permettre aux gens d'avoir définitivement confiance et qu'il y ait une adoption générale des cryptos. Franchement, l'espoir d'une crypto qui va apparaître et venir résoudre tous les problèmes, ça fait longtemps que moi je n'y crois plus trop. Chacune va venir résoudre un problème, mais elle ne pourra pas résoudre tous les problèmes.
Ouais, je crois aussi. Je pense qu'en fait, on se dirige vers un monde où chacun devra maîtriser un petit peu tout, faire ses arbitrages. C'est-à-dire que typiquement, enfin, avoir un compte Bitcoin, par exemple, pour ses activités entre guillemets officielles, un compte Monero pour ses activités un peu plus privées, peut-être potentiellement un compte, n'importe quoi, Multiverse, Solana pour la chicanerie. Voilà, chacun devra faire ses propres arbitrages. Et utiliser sa monnaie pour un cas d'usage très précis. Je pense qu'on se dirige plutôt vers ce modèle.
Ouais,
comme j'ai toujours dit.
Si on fait le parallèle. Ouais, vas-y d'abord.
Non, vas-y.
En fait, ce que je vais dire, je suis encore en train de d'échafauder ça dans ma tête. Continue
d'abord. Ah, ok, d'accord.
En fait, on fait le parallèle avec l'environnement du trading. C'est-à-dire, avant, il fallait acheter des actifs d'une entreprise, trader ici, grec. En fait, ce que les entreprises émettaient, c'était des titres, etc. Je pense qu'on évolue dans une dimension où les titres vont maintenant être représentés par des tokens. Franchement, c'est le plus probable que j'ai en tête. Et que donc, la culture ancienne du trading, qui est d'acheter des titres de telle entreprise selon le niveau de confiance et d'espoir qu'on a en son évolution et en son essor, ça va être à peu près la même chose. Il y aura des cryptos qui seront possédés beaucoup plus dans une logique de trading, d'investissement à long terme, et d'autres qui seront possédés pour des utilisations beaucoup plus quotidiennes sous forme de monnaie numérique. Franchement, techniquement, c'est l'issue la plus probable. En fait, ce qui est fascinant, c'est que tout n'est qu'une petite évolution du schéma, des schémas qui étaient déjà là avant. Juste que ça date à la nouvelle capacité technologique qu'on a actuelle. Ouais.
Ouais, mais il y a.
Maintenant qu'il y a la blockchain.
Ce qui est fou, c'est que en termes d'adoption, c'est compliqué parce que nous, on a déjà, pour la plupart, on a déjà un historique. On est déjà dans l'écosystème depuis un petit moment, donc on comprend pas mal les rouages, les différentes subtilités, les trucs de comment passer d'un réseau à un autre, comment utiliser un bridge, etc. Et même, franchement, même moi avec mon expérience, je trouve ça hyper galère. Je trouve ça horrible de passer d'un token genre du DYDX vers du Ethereum, c'est un truc de fou. Faut faire des trucs de malade. Alors que, à chaque fois que je fais ça, je me dis genre putain, l'adoption, ça va être compliqué parce que les gens qui sont un peu intéressés aux cryptos, qui savent que ça existe, qui aimeraient bien utiliser pour certains cas d'usage vraiment très précis, très concrets, ils vont jamais. Je pense pas qu'ils vont s'aventurer avec ce genre dans ce genre de conneries en fait. Tu vois, genre il leur faut des solutions quand même assez faciles d'utilisation, des trucs où ils sont pas à risque de perdre tous leurs fonds lors d'une transaction, etc. Quoi. Donc il y a une espèce de fossé entre, je trouve, entre toutes les en fait. Tout ce monde en ébullition de développement, de technologie, de solutions, etc. Ce qui est nécessaire d'avoir pour une adoption. Et c'est ça qui est, je trouve, un peu étrange.
En fait, il ne faut pas arriver à l'adoption là, ça n'arrivera pas. Je pense, en fait, ça n'arrivera pas. Il faut quand même beaucoup de recherches. Il faut faire des heures d'expérimentation, chose que les gens ne veulent pas faire. Pour te donner une idée, je crois qu'il y a encore la moitié de la population qui passe plus de 4 heures par jour devant sa télé. Ces gens-là, tu vois, enfin, cette moitié-là, tu ne pourras pas leur dire t'es DYDX, tu swaps dans machin, tu swaps sur le token XY. Ces gens-là, ça n'arrivera pas. La plupart seront piégés par le CBDC. C'est comme ça, c'est la vie. En fait, je pense qu'il ne faut pas cibler la l'adoption de masse par les normies, ça n'arrivera pas. Faut d'abord cibler le plus petit nombre, et puis les petites minorités qui font l'histoire. En fait, il y a un mimétisme social, en fait. C'est-à-dire que faut pas cibler les classes moyennes, les classes populaires, ça ne sert à rien. Les classes moyennes et populaires, elles s'identifient entre guillemets à la petite bourgeoisie qui elle-même s'identifie à la grande bourgeoisie et tout ça. Donc si tu cibles l'élite, c'est-à-dire que si tu apprends à quelques personnes, disons, j'ai n'importe quoi, dans le CAC 40, dans ce genre de truc, dans les sphères d'influence du pouvoir, si tu leur apprends à utiliser les outils, la moyenne bourgeoisie va, enfin la grande bourgeoisie va suivre, la petite bourgeoisie va suivre, et puis le bas peuple va suivre derrière. En fait, si on veut de l'adoption de masse, il ne faut pas passer par le peuple. Faut passer entre guillemets par le haut de la pyramide.
Ah, pour revenir sur ce que tu disais, moi tu vois je vois le Bitcoin aussi comme une valeur refuge, dans le sens où si je sais pas il y a des tensions géopolitiques ou une chute du dollar ou autre, tu vois les grandes institutions, les grands groupes, etc. Ils vont vouloir garder leur argent tout simplement, tu vois. Donc il leur faut des monnaies refuges ou des actifs refuges ou par exemple investir dans l'or, etc. Maintenant le Bitcoin, l'avantage du Bitcoin du coup c'est que il est régulé par personne. Donc le jour où si on peut avoir une adoption de masse, c'est malheureux, mais c'est aussi quand il peut y avoir une crise, tu vois. Et c'est pour ça aussi, moi j'ai pas peur de garder une grosse partie de mes fonds en Bitcoin, parce que s'il y a bien une crypto qui devrait rester dans les 10 prochaines années, c'est bien celle-ci, tu vois. Alors que demain, par exemple, l'Ethereum, tu sais pas s'il est encore là dans 10 ans, parce que eux, tout le temps, ils doivent être là à suivre avec des nouvelles technologies, etc., tu vois. Parce qu'une adoption de masse, il faut aussi que ce soit pratique, tu vois. Bitcoin, c'est pas vraiment pratique, c'est pas utilisé par les banques, tu vas pas avoir un seul Bitcoin dans ton compte BNP, tu vois, et pour qu'il y ait beaucoup d'échanges dessus, ça va prendre vraiment beaucoup de temps. Mais déjà, comme tu disais, si des gros groupes ils adoptent, c'est déjà une victoire, tu vois, parce qu'en soi, les particuliers, ils n'ont pas un gros pouvoir, tu vois, c'est pas ça qui va réellement changer les choses.
D'accord.
Ouais. Ouais, en tout cas, alors il y a eu des commentaires. Il y a eu des commentaires, notamment. pardon. Il y a Paul CWCZ qui dit ça vous parle de Zika IBC, Zero Knowledge Inter-Blockchain Communication. Je vois cela comme une solution future. Les bridges ne sont pas une solution, les layers non plus. Ils empêchent l'adoption. Ok. Il a dit je vous recommande Foudre. Donc, c'est un compte d'un mec qui bosse sur. C'est un analyste et un vulgarisateur qui est rédacteur au Journal du Coin et qui est un défenseur de Multiversix, I guess. Donc, c'est son compte, c'est xfoudre au pluriel. Et je l'utilise pour le côté... pour plus de détails techniques sur Multiversix. Il dit qu'il utilise Multiversix pour le côté DeFi, qu'il aime énormément, avec une grosse scalabilité et avec le sharding, l'UX est top. Effectivement, pour un puriste de la décentralisation, c'est peut-être pas le mieux, mais ça va en s'améliorant. Le dev se fait en Rust, les retours des développeurs sont excellents. Enfin bref, je suis pas là pour faire la pub, mais c'est bon de creuser car la tech dedans est vraiment innovante avec les sovereign shards qu'ils développent. J'ai jamais trop compris ce que c'était le sharding. Je sais que c'est un truc sur Ethereum, notamment. C'était un gros sujet à un moment donné, mais je suis pas assez bon techniquement pour savoir ce que c'est. Je me suis jamais pas.
Je crois que c'est fait d'avoir plusieurs instances. Enfin, je sais pas, il y a peut-être un lien avec une espèce de load balancer, je dis n'importe quoi. Aucune idée.
Mais il faudrait qu'on se fasse une émission où on parle en fait des solutions, des applications, des solutions qui sont développées ou qu'il faudrait développer pour justement pour l'adoption en fait. Donc tout à l'heure on parlait des commerçants qui ont besoin de systèmes pour pouvoir justement, je sais pas, recevoir des paiements et gérer leur comptabilité ou des trucs un peu moins sommaires que d'avoir juste un wallet et faire des transactions comme ça, des trucs qui sont connectés à des terminaux de paiement. À un moment donné, il y avait une hype avec ça genre dans le bull de 2017-2018, il y avait un projet, je me souviens plus le nom, il développait ou il faisait semblant de développer, on saura jamais parce que ce truc n'a jamais vu le jour, je crois. C'était un système de paiement, justement, c'est des espèces de machines là, tu sais, comme les trucs où tu tapes ta carte de crédit pour les commerçants, mais directement connecté à des cryptos. Je sais plus le nom.
Ouais. Il y a eu ça dans mon université, pour le Bitcoin. Ça fait pas un ou deux mois, mais après, c'est pas pratique. C'est pas si pratique ce qui se fait déjà. Donc, pour les gens qui ont vite mis ça aux oubliettes.
Cet outil dont tu parles, chat, c'est quoi? C'est comme un truc pour. Enfin, c'est une espèce de retrait, c'est ça? C'est comme un distributeur?
Non.
Oui.
Bah, moi, le truc dont je...
La petite machine.
Ouais, tu sais, genre ce que les commerçants ont, le truc où tu mets ta carte, où tu fais le paiement, enfin, un terminal de paiement, voilà. Terminal de paiement. Et en gros, c'était une crypto qui s'appelait, je sais plus comment ça s'appelait, qui avait développé un terminal de paiement pour payer directement depuis leur wallet. Donc, pour les commerçants. Donc, les commerçants ont ce truc-là. Toi, tu as un wallet avec leur crypto à eux. T'arrives, tu mets ton téléphone sur ce truc-là et ça paye le truc que tu viens d'acheter directement avec cette crypto-là. Et puis donc comme ça, bah, ça va sur le wallet du commerçant automatiquement.
Ah, chez nous, c'est le Bitcoin qui fonctionne.
D'accord, c'est la crypto qui fait le projet qui a développé en plus de sa crypto son processeur de paiement.
C'est ça.
Ouais, ça pourrait être utile. Après, je sais pas. Ça veut quand même. Enfin, ça sous-entend quand même que le service, il a très peu de temps de latence. S'il a très peu de temps de latence, ça veut dire qu'il a énormément de blocs. Et s'il a beaucoup de blocs, ça veut dire. Enfin, par seconde. Et ça veut dire que ça a pas l'air très décentralisé, en fait.
Ah, c'est ça. Ouais.
Moi, je pense vraiment d'un point de vue purement technique et pratique. Voilà, c'est voilà. Ou alors c'est peut-être quelque chose en lien avec Lightning, faut voir.
Ouais, non, c'est bah il faudrait voir justement avec d'autres cryptos comment ce serait possible, si ça existe déjà, si ça n'existe pas, comment ça pourrait être mis en place, mais là pour le coup c'était vraiment une crypto en particulier. Il y a DMCS qui veut dire quelque chose, qui a mal levé, ça va?
Ouais, salut, bonsoir, ça va?
Ouais, toi.
Ça va? Bah, bonsoir tout le monde. Ouais, du coup, je voulais revenir sur ce que vous disiez juste avant avec l'adoption des cryptos. Vous avez rappelé que sur le fait que le Bitcoin, c'est quand même la première crypto-monnaie, l'importance qu'elle a. Du coup, sur le côté adoption, ça va passer peut-être par enfin, une question par la scalabilité des transactions, je pense. Et comme Monsieur Eden disait, pardon, sur la tokenisation des actifs, c'est vrai que ça va se déplacer sur plutôt d'autres blockchains comme Ethereum et tout. Donc ça va peut-être pas être une crypto, mais plusieurs crypto-monnaies sur plusieurs secteurs différents. Mais ouais, l'adoption de masse plutôt par la scalabilité et le fait que la blockchain, lorsqu'on fait des transactions pour les actifs, la tokenisation des actifs, c'est la chose quand même la plus sûre technologiquement parlant. Donc ça va forcément passer par le Bitcoin et la valeur refuge numéro une. Mais je pense que dans le sens descendant, il y aura d'autres blockchains qui vont venir alimenter l'écosystème de façon générale. Après, par rapport à ce que Cryptomancien disait sur la pyramide, sur les élites, est-ce que les institutionnels sont pas déjà les élites avec les ETF? Voilà.
Je pense qu'en fait, pour revenir ouais, justement à la pyramide, je pense qu'il faudrait d'abord corrompre les élites, enfin, ce qui est très facile, parce que ce système de paiement de CBDC, faut dire les choses, c'est pour les plébeux, c'est pour les gueux, c'est pour la plébasse, tu vois, c'est pour nous. Ces mecs-là, ils veulent des passe-droits, enfin, ce qui est normal de vouloir des passe-droits dans la vie. Mais je pense qu'en fait, si eux sont les premiers à avoir les passe-droits, ils vont, entre guillemets, ils vont faire l'auto, enfin, la promotion via d'autres mecs dans les seraves du pouvoir. Et c'est comme ça qu'en fait, l'adoption de masse se fera par le haut de la pyramide. C'est du système corrompu, en fait. C'est ça. Voilà, c'est Bitcoin va nettoyer le haut de la pyramide, en fait.
Il y a Frédéric qui est arrivé et directement avec un pouce vers le bas. Genre, il arrive, il est pas content dès le départ. Je t'ai mis en speaker, Frédéric. Je sais pas si ça fonctionne ou pas. Mais moi, je suis assez d'accord avec ce que tu viens de dire quand même, parce que ça me rappelle un peu il y a longtemps. Je vais encore être vague, désolé, mais tu sais, les politiques en France, mais partout en Europe, en fait, ils sont toujours en mode ouais, il y en a marre des banques. Il faut plus de transparence. Ça, il dit ça pour les votes et tout. Enfin, pour avoir plus de voix aux élections. Mais en vrai, à un moment donné, c'était en 2015 ou 16, je crois. Il y a, en même temps qu'il y avait tout ce discours, genre anti-banque et tout, il y avait eu un vote alors, je connais rien aux institutions, au Parlement européen, un truc de genre. Justement, en fait, ils voulaient passer une loi c'était une proposition de loi pour la transparence des banques au sein de l'Union européenne. Un truc qui forçait les banques à publier, à rendre transparent un certain nombre de choses et tout ça. Et ils avaient tous voté contre. Et ça m'a fait rire, tu vois, parce qu'en fait, en vrai, un peu comme tu disais, je pense, c'est que en vrai, les premiers qui veulent absolument pas de transparence, qui veulent le plus d'opacité possible pour pouvoir continuer leur petite magouille, c'est ceux qui sont au haut de la pyramide, hein, en vrai. Ceux qui ont plus besoin de cash, ceux chez qui on retrouve des liasses de billets cachées sous un lit. C'est carrément genre les membres du Parlement européen, quoi. Je sais pas, mais je pense qu'il y a des choses. Ouais, je pense qu'il y a pas que nous, il y a pas que les gens du peuple qui ont besoin de solutions de paiement comme Monero. Il y a aussi tout le monde va en avoir besoin, et peut-être même que les premiers utilisateurs de Monero, finalement, ça va être les gens qui ont les manettes entre les mains. Après, ça fait un peu, ça fait un peu, comment dire? C'est un peu, ça fait un peu vague et
Mais
ça
je
fait un
comprends
peu
l'idée, je
discussion de
comprends
comptoir.
l'idée.
Ouais.
C'est une chose pour toi, mais c'est-à-dire que ouais, ils veulent des passe-droits, en fait. C'est-à-dire que tous les systèmes de contrôle, c'est pour la plébasse, c'est pour nous. Eux veulent des passe-droits. Après, eux, je sais pas s'ils vont vraiment passer par le système de crypto, parce que via le système bancaire, Ils ont tellement d'avantages, ils ont tellement de liasses de cash, ils n'ont pas besoin de faire l'effort comme nous, d'essayer de comprendre une technologie, d'essayer de comprendre des outils, des nouveaux moyens de paiement. Eux, c'est pas leur monde.
Mais justement, les personnes qui sont pas là-dedans, les grandes fortunes, ils investissent sur de l'ETF. Ils passent pas par les bridges et tout ce que tu veux. C'est ça que je veux dire, c'est que institutionnellement parlant, historiquement, je pense que Bitcoin avait besoin d'être légitimé avant d'attendre la masse adoption par Ethereum, Polygon, tout ce que tu veux. Mais j'ai l'impression que là, vraiment, on a fait un bon... on est pressé, mais en fait, il fallait déjà instaurer Bitcoin de façon légale, quoi. Je veux dire, là, les États-Unis l'ont fait. Donc après, oui, on va voir pour les autres cryptos et la masse adoption, mais Bitcoin, c'est quand même... ouais, là, il a passé un cap, je pense.
Imaginez, c'est la demande pour Ethereum, pour Monero viennent de compagnies d'entités comme BlackRock pour plus de privacy dans les transactions crypto.
Bah, je pense que justement, ce serait un petit peu la finalité de ce que j'aimerais beaucoup faire. C'est bosser avec des mecs comme ça, tu vois, genre des BlackRock, des mecs à la défense, des mecs chez Total, tout ça, et leur montrer comment ça marche, Monero. J'adorerais faire ça. Tu vois, genre l'introduire, en fait, faire comme ce que fait Sortie de Banque, mais à l'autre extrême, en fait, de la pyramide sociale. C'est-à-dire que Sortie de Banque, il travaille beaucoup sur le bas. Moi, j'aimerais beaucoup travailler sur le haut, tu vois. En fait, pour niquer tout le système, en fait, faut niquer par le haut. Par le bas, c'est bien, mais ça prend beaucoup trop de temps. C'est justement les gros mecs du CAC 40, de l'Assemblée nationale, du Parlement, commencent à utiliser Monero. Là, mais c'est la fin des haricots pour le régime, tu vois.
J'aime bien parce que, genre, la plupart des gens, quand ils sont en train de dormir, leur rêve, c'est genre, ils sont sur la plage à Tahiti avec leur crush du lycée. Ils sont en train de, genre, de vivre leur vie de rêve. Ils sortent la planche de surf, ils montrent à quel point ils ont des gens et tout. Toi, CryptoMossa, t'es dans les bureaux de BlackRock en train de montrer Monero à des mecs en Costa Rica.
Mais enfin, niquer le système, mais de l'intérieur. En fait, on peut pas niquer de l'extérieur, donc il faut niquer de l'intérieur. C'était complètement court, mais ouais, parce que le système se défend bien de l'extérieur. Si tu vas chez un politicard, chez un ministre, un machin, tu lui apprends à utiliser le truc, qui lui-même va montrer aux autres ministres et aux députés, aux autres ministres, machin, et aux autres huiles du régime, là, l'adoption va aller très très vite, en fait. Et je pense que la fin de ce régime, bon, déjà, je pense qu'on s'en approche plus ou moins, hein, parce que là, la dette des États socialistes, comme ça peut pas durer. Donc on se rapproche plus ou moins d'une... Enfin, je sais pas comment ça va se passer, d'une banqueroute ou je sais pas vraiment par quel artifice le régime va se modifier en profondeur. Mais on peut encore plus le modifier, justement, si on montre aux gens... Enfin, si on montre vraiment le haut de la pyramide Monero. Ça serait l'effondrement total du régime. On pourrait rebâtir quelque chose de nouveau.
DMCS, tu veux dire un truc?
Ouais, mais après, je comprends pas trop par rapport à Monero, parce que c'est vrai que je connais plus de noms, mais je voulais revenir aussi sur le côté, tu disais crypto-mancien, les élites, les politiques et tout, mais moi je pense qu'il y a aussi tout ce qui est plutôt sur le côté culturel avec les artistes et tout, et ça bouge pas mal aussi, donc sur d'autres blockchains, mais ça va passer par eux aussi, des artistes très très connus qui ont besoin d'investir leurs fonds ou quoi, et ça va entraîner aussi leurs followers ou les gens qui les suivent, quoi.
Ok, et puis désolé, j'ai rien à dire pour vous dire, mais Monsieur Eden, tu voulais dire un truc. Je pense que ça va être la dernière intervention, parce qu'en fait, on arrive en... Ça fait déjà une petite heure et demie qu'on est ensemble. Et,
ouais. Ouais, je voulais dire. Il y a quelqu'un qui a dit tout à l'heure que on est un peu pressé, et je trouvais que c'était vrai. En vrai, ça évolue assez bien. C'est juste que de notre point de vue, ça va pas encore assez vite comme on le voudrait, mais de façon réaliste, ça va à son rythme. Et comme tous les modèles, comme notre modèle économique l'a déjà montré dans l'histoire, il y a le moment où la bulle éclate. La bulle économique, la bulle de la dette, ça éclate toujours. Et au moment où ça éclate, c'est là qu'il y a une sorte de refonte du système financier. Et je pense que les crypto-monnaies, la blockchain, la décentralisation, tout ça, c'est déjà incorporé, un tant soit peu, au système financier global. Et que quand la bulle va éclater et que les cadres vont se redéfinir, c'est à ce moment-là qu'il y aura le réel changement qu'on attend tous de voir. Que ça va se passer. Parce que effectivement, quand la bulle éclate, les choses qui ne sont pas stables, qui en fait n'avaient pas les bons appuis, ça saute. Et ce qui avait une valeur vraiment tangible et perceptible, tiennent. C'est à ce moment-là forcément que les gens vont se rendre compte, en tout cas la grande masse va se rendre compte que c'était du sérieux. En tout cas que c'est du sérieux. Donc franchement, moi je suis tranquille, je sais que la bulle va éclater, je sais que ça va faire mal, mais je sais que c'est à ce moment-là que la transformation va s'opérer. Jusque-là, disons que c'est du placement stratégique que c'est en train de faire. La nouvelle révolution blockchain est en train de se placer stratégiquement dans les petits recoins de la finance et de l'économie mondiale. Et au moment où les cadres vont être redistribués, là maintenant, le nouveau jeu va commencer. C'est tout.
Et d'ailleurs, j'en profite pour dire que nous, on parle de sous en ce moment, mais la blockchain, c'est pas forcément que des sous. C'est aussi des toutes sortes de choses, d'applications possibles, et notamment, il y a un sujet qu'on va explorer mardi prochain. C'est les synergies entre la blockchain et l'intelligence artificielle. Et donc voilà, c'est un truc, on a décidé de parler de ça mardi dernier, donc hier en fait. on a eu une full discussion, c'était super intéressant sur l'intelligence artificielle comme tous les mardis. Et on s'est dit, tiens, on se fait la semaine prochaine une émission blockchain IA. Donc je dis ça parce que si vous avez des idées d'émissions, en fait, si vous voulez parler de trucs, là, vous êtes présent pendant l'émission, vous dites ouais, j'aimerais bien qu'on explore tel ou tel sujet, qu'on soit, on aborde un peu plus concrètement tel truc, etc. Bah, envoyez-moi un PM ou mettez-le en commentaire ou quoi, et dites de quoi vous voulez quel sujet vous voulez qu'on aborde pour une prochaine émission. Et il y a moyen qu'on le fasse, en fait, parce que moi, je suis toujours en recherche d'idées, de thèmes, d'émissions, de débats, ou même de trucs un peu plus concrets ou quoi. Donc, n'hésitez pas, en fait. Je prends les idées de débats ou d'exploration de toutes sortes. Donc, voilà, n'hésitez pas à proposer. Et puis, c'est ça, l'émission, c'est tous les jours du dimanche au jeudi à 22h. Demain, comme tous les jeudis, c'est avec Vincent. Et on se fait, donc, comme tous les jeudis, une émission géopolitique, géoéconomie. La semaine dernière, c'était fou. On a fait une émission sur le cacao. C'était excessivement intéressant. Détrompez-vous si vous ne savez pas pourquoi on a parlé de cacao. C'était vraiment excellent. Et demain, on va repartir un peu sur un truc un peu plus géopolitique, littéralement. On va parler de la relation entre les États-Unis et la Chine au regard de l'éventuelle élection de Trump. Donc on va analyser toutes sortes de métriques en rapport avec l'élection éventuelle de Trump, et puis sa politique, en tout cas son rapport avec la Chine, le rapport de la Chine avec les États-Unis, tout ça. Puis on va essayer de voir comment ça va éventuellement façonner notre vie dans un futur proche, parce que les élections aux États-Unis, c'est dans quelques mois. Et puis aussi éventuellement notre vie économique, parce que la relation entre la Chine et les États-Unis, ça drive pas mal les marchés et pas mal ça nous affecte. Pas directement, mais quasi. Donc voilà. Donc c'est ça, on fait ça demain à 22h. Et puis dimanche, il y a une émission, on fait une émission sur Bitcoin encore. Bitcoin et c'est L2. Donc c'est quoi les L2 sur Bitcoin? Est-ce que c'est bien? Est-ce que c'est pas bien? Qu'est-ce qu'il y a, etc. Et on fait ça avec comme invité Gilles Cadignan, qui est notre le maxi du CPFR, et donc il sera là dimanche, et puis on va parler de tout ça, et voilà. J'ai rien d'autre à dire. Oui, sinon, le dernier truc que je voulais dire, c'est que je commence à travailler avec Subs. Donc, il y a une application en fait pour pouvoir faire des paiements récurrents, donc en fait des abonnements en crypto. Donc, j'ai pas voulu trop monopoliser le temps de parole avec ça aujourd'hui, mais c'est une solution justement pour l'adoption. Donc, c'est pour ça que je travaille avec eux, parce que je trouve que c'est une idée excellente et je suis vraiment persuadé que ça va participer à l'adoption. Donc, si vous êtes intéressé, regardez le post que j'ai fait un peu plus tôt, là, explorer le truc. Et voilà, c'est un super projet. Et puis, je vous en reparlerai un petit peu plus en détail plus tard, un autre jour. Voilà, bonne soirée à vous. On se quitte en musique. Merci énormément, Cryptomancien. C'était super cool. Merci de m'avoir assisté pour cet épisode, c'est cool. Et puis merci Mister Eden aussi pour avoir participé activement. Merci DMC5, puis DMCS pardon, et tous ceux qui sont venus écouter. On se dit rendez-vous demain si vous êtes chaud pour l'émission sur Trump et la Chine. Allez, salut. Thank you.